On est prêt, moteur. Pamela, 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Eh bien, bonjour. Eh bien, c'est déjà le 4e numéro du Clap Cinéma de Jean-Max. Bonjour, Jean-Max.
Bonjour.
Jean-Max Méjean, notre éminent critique de cinéma. Merci encore de venir régulièrement donc, pour nous parler cinéma. Et on est dans la période de Cannes, mais on ne va pas parler de Cannes, parce que vous n'aimez pas les falbalas, vous n'aimez pas les paillettes.
Mais on aura les résultats samedi, on verra bien. Bon, je ne dis pas que je ne regarderai pas... Le palmarès. Mmh. Non, je ne regarderai pas les simagrées, mais je regarderai un peu le palmarès. Voilà. Mais,
alors, pour cette émission de juillet, on va parler des films que vous avez aimés au premier semestre 2025. Donc, vous en avez choisi 11. Donc, il faudra en parler vite et bien pour chacun. Vous avez un petit regret, c'est que vous ne pouvez pas parler de Enfant phare qui est de novembre 24, que vous avez beaucoup aimé, moi aussi.
Mais voilà, et à l'époque, je ne participe pas à votre émission, donc voilà.
On pourra en reparler.
Mais on a beaucoup aimé parce que c'est un film plus qu'aimable, voilà.
Voilà. Alors, je ne vais pas lister les 11 films que vous avez choisis, mais on va les faire. Alors, ce n'est pas un classement.
Non, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'étoile, on n'est pas à l'école, il n'y a pas premier prix, deuxième prix, palme d'or, non.
Ce n'est pas chronologique non plus, ce n'est pas selon les dates de sortie, c'est dans l'ordre que vous m'avez donné et vous avez commencé par un que je ne connais pas, désolé, je ne suis pas aussi cinéphile que vous, Berger de Sophie de Rapp.
Ah, Berger de Sophie de Rapp. Alors, c'est un film, elle avait déjà réalisé un film, c'est une Canadienne, une Québécoise, elle avait réalisé Antigone, qui était un très beau film. Et donc là, elle récidive. Alors, c'est un film qui se passe justement dans notre région, ici, puisque la première étape, c'est à Arles, et c'est un jeune, on va dire... Comment sont ces métiers à la mode, la communicant, voilà. Un communicant québécois qui doit avoir dans les 25-26 ans et qui a découvert, grâce à la France, le métier de pasteur, c'est-à-dire s'occuper des chèvres, des brebis, voilà. Et il veut, alors il arrive en France, il arrive à Arles et il fait rire tous les gens là parce qu'il participe à une espèce de marché. Il arrive avec son air angélique et puis citadin surtout. Je veux faire berger. Alors les autres rient. Voilà, il n'a jamais fait ça de sa vie. Alors il rencontre une fille qui travaille, ça c'est très drôle aussi, la bureaucratie française, qui rencontre dans un office où elle donne les certificats de séjour, vous voyez, des choses comme ça. Et elle devient bergère à son tour. Voilà. Donc,
par amour.
Par amour, par passion, par goût de l'écologie. Et alors, ce n'est pas du tout un film militant. On ne nous apprend pas, on ne donne pas des leçons de morale sur comment... Non, c'est sur l'écologie, mais naturelle. Quoi, là, voilà.
Alors, et pourquoi vous l'avez aimé en point de vue
Alors, parce qu'il est entre film documentaire et film de fiction. Oui. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Alors, il s'est joué... la plupart par des acteurs non professionnels et quelques professionnels. Et ça, y a les deux aspects. Donc, il y a la ferme dans laquelle il est maltraité et les animaux aussi. Puisque quand il s'échappe, il y a même le chien de berger qui le suit. Et ensuite, il y a la patronne qui est beaucoup plus gentille, mais qui a un cheptel énorme. Je crois qu'elle a 900 têtes de... C'est des ovins, hein, puisque ce sont des brebis, et qui sont attaqués par des loups. Voilà, je n'en dis pas plus.
Donc il y a plusieurs thèmes, en fait.
Voilà, non, mais c'est un très beau film, et je crois qu'il est toujours à l'affiche, alors je ne vais pas vous le raconter en entier.
Il faut aller le voir. Il faut aller un peu plus vite sur les synopsis, dire plutôt pourquoi vous l'avez aimé. Alors le deuxième, c'est Un parfait inconnu de James Mangold.
Alors celui-ci, vous l'avez vu. Bon. Alors, et qu'est-ce que vous en avez pensé?
Non, je vous laisse parler, c'est votre émission.
Bon, alors, moi, si je l'ai mis dans mes 11 films, c'est que je l'ai, et c'est plus qu'aimé, J'ai adoré ce film. Pourtant, Timothée Chalamet, on avait parlé un peu off. Mmh. C'est vrai que c'est pas un acteur. Je le trouvais jusqu'à présent un petit peu jeune, quoi. Mmh. Il manque un petit peu de maturité. Et là, je trouvais qu'il était génial pour incarner Bob Dylan comme il fait. Et en plus, j'ai lu, et il paraît que c'est vrai, hein,
qu'il chantait lui-même.
Que c'est lui-même qui chante. Mmh. D'ailleurs, dans l'extrait que nous entendrons.
Mmh. Que nous allons entendre.
Voilà, c'est pris sur la bande du film, et c'est lui-même qui chante Bob Dylan. En plus, là, c'est Bob Dylan à ses débuts.
À ses débuts, quand
c'est au moment,
Imperfect,
voilà,
inconnu.
Voilà, c'est au moment où il commence à composer ses chansons, à ne plus que interpréter, mais à les écrire. Et là, il est chez sa petite amie et il commence à écrire la chanson que nous entendrons.
Alors, c'est vrai qu'on a dit, je ne sais pas si ça a été créé, ce prix pour les maquillages, mais les maquilleurs, mais c'est vrai qu'il y a des maquillages absolument extraordinaires.
Oui, alors c'est des maquillages, mais
qu'on
ne voit pas.
Oui, oui, ben, c'est ça qui est réussi.
Parce que c'est pas.
Alors, on reparlera
même
de Maria, où il y avait aussi Angelina Jolie qui chantait, un maquillage extraordinaire.
Oui, voilà.
Mais je vous propose qu'on écoute, puisqu'on va écouter trois petites bandes-annonces ou morceaux de musique sur 11. On va écouter un peu la bande-annonce d'un parfait inconnu.
Qui t'a appris à jouer ?
J'ai appris tout seul, en fait. J'ai chopé quelques licks au cirque.
T'as appris dans un cirque ?
Ouais, il y avait des cow-boys qui venaient chanter et ils me montraient toutes sortes d'accords bizarres. Ils se produisaient dans l'arène, dans le Kansas et le Dakota. Ces accords, je les tiens d'un cow-boy qu'on appelait Wigglefoot.
Toi, t'étais dans un cirque. Ce que tu peux débiter comme connerie. Moi, petite, j'ai pris des cours, tu vois, des cours normaux. J'écris aussi, et ça, je crois pas que ça s'apprenne.
T'en fais trop.
De quoi tu parles ?
Tu t'appliques trop. Quand t'écris.
Ah oui ?
Ouais, si tu me demandes.
Je te demande pas.
Crépuscule et goéland. Parfum de bouton d'or. Tes chansons sont comme des peintures à l'huile dans la salle d'attente d'un dentiste.
T'es vraiment qu'un sale petit con, Bob.
Ouais, sans doute.
Joue-moi ça.
Alors, on reprend sur Maria. On va aller vite parce qu'on en avait déjà parlé.
On n'a pas dit le titre, mais ce n'est pas grave. Du morceau.
Mais c'est la bande-annonce, non ?
Oui. Non, il est en train de composer une de ses plus célèbres chansons.
Ah, d'accord. Bon, bah, écoutez, voilà. Vous avez corrigé, c'est très bien. Alors, Maria, on va en reparler peu puisque nous en avons parlé lentement. C'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés donc, au Sémaphore. Vous aviez présenté le film. Vous restez toujours fan de ce film qui a, et là aussi j'étais un peu surprise, assez critiqué, alors que moi aussi j'ai beaucoup aimé ce film.
Alors je sais pas, oui, il a été critiqué, mais je sais pas pourquoi en fait.
Oui,
il y a des gens, en fait, c'est pas des critiques, mais des gens que je connais qui m'ont dit « Oh, mais c'était trop triste !» Bah oui, évidemment, c'est pas de la gaudriole. Mais ça me tue, les gens au cinéma, ouais. Ils vous disent « Mais j'ai pas aimé le film, il est trop triste !» Bah évidemment, dans ce cas, on va voir que des films rigolos. Parce
et
que
puis
là,
moi j'ai trouvé que rien que pour le couple de son chauffeur et sa gouvernante, ça vaut la peine, parce qu'il y a deux seconds.
C'est deux grands acteurs.
Deux grands acteurs.
Et puis l'atmosphère, cette espèce de son appartement tombeau, en fait, hein, mausolée.
Oui.
Et puis, mais alors Angelina Jolie, bon, on ne va pas le répéter, qui est vraiment.
Mais allez voir ce film.
Formidable. Hein.
Alors vous avez mis dans votre liste, je répète, c'est ni un classement ni un prix, vous l'avez mis en quatrième, La chambre de Mariana d'Emmanuel Finkel. C'est le dernier film moi, que j'ai vu. Alors moi, je l'aurais mis en premier parce que j'ai vraiment été subjuguée.
Alors moi, je ne fais pas de classement, mais c'est vrai que ça fait peut-être un peu fourre-tout s'il n'y a pas de classement.
Vous m'avez rappelé ce mot que je n'utilise pas, c'est un miscellané.
Miscellané, voilà.
C'est joli.
Ça fait beaucoup plus chic que fourre-tout. Bon.
Pêle-mêle.
Pêle-mêle, bon, en vrac. Alors non, moi, je ne l'aurais pas mis en premier parce que pour moi, La chambre de Mariana, bah, alors là, quand on parle de film triste,
ah, oui.
C'est un film lugubre, sinistre, mais bon, en même temps, Bon, alors, on ne va pas dire, mais Emmanuel Finkel, c'est quand même lui qui a réalisé La Douleur, d'après le
c'est une
texte.
Trilogie, en fait. Hein. C'est
oui,
le troisième
voilà,
de
c'est
la
ça.
Trilogie.
Donc, c'est... Mais ce qu'il y a de plus dérangeant, encore, si c'est possible, que dans La Douleur, c'est... Dans La Douleur, il y avait déjà l'enfermement. L'enfermement dans l'appartement de Marguerite Duras, là, à Saint-Germain-des-Prés, avec le retour de son mari qui avait été fait prisonnier. Là, on est dans l'enfermement la chambre d'une prostituée qui s'appelle Mariana et qui a recueilli cet enfant juif qu'on a caché, qui a 12 ans environ. Mmh. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi dans le film, qui est en même temps terrifiant, c'est que c'est à ce moment-là que l'enfant fait sa découverte. C'est très psychanalytique comme
film. Ça fait.
De sa propre sexualité. Mmh. Et il va la faire en entendant les cris des clients de la prostituée, et même la prostituée à la fin qui l'initie un petit peu à l'amour. Donc ça a un côté un peu. Mais c'était nécessaire. Hein.
Bien sûr.
Mais c'est
vrai que la dernière partie, moi, m'a moins plu, mais j'ai été émerveillée par Mélanie Thierry. Je l'ai vue dans beaucoup de films, la princesse de Montpensier.
Mais elle a toujours été excellente.
Dans Thérapie, elle était excellente. Donc moi, je recommande vivement La Chambre de Mariana.
Oui, voilà, moi aussi, mais alors avec quand même des précautions. Oui. On ne peut pas y envoyer n'importe qui. Non. Puis il faut être un peu averti.
Il faut être un peu l'histoire, hein, parce qu'il y a des choses tout de même très...
C'est pas
très
le
violente,
film
hein.
qu'on appelait le film du samedi soir, hein,
non,
voilà, ou du dimanche après-midi. Bon.
Alors, Une jeunesse française de Jerry Mataglia.
Alors ça, c'est un documentaire, et en fait, comme nous sommes à Nîmes, ça va vous intéresser encore plus, parce que... Et alors ça, je l'avais remarqué quand j'étais allé voir des courses libres. Alors, je ne sais pas pour nos auditeurs s'ils font la différence, ils la font ici,
c'est
fatalement.
Entre
courses libres et corrida. C'est-à-dire
d'accord, j'étais pas du tout dans le... Oui,
la
oui.
course libre, le taureau n'est pas mis à mort.
D'accord.
En revanche, c'est un combat avec des êtres humains, et qui... Alors, le but, c'est d'arracher la cocarde du taureau, qui est très speed, voilà.
Vous êtes affiché. Aficionado ? Non, pas vraiment.
Non, mais je suis ni moi de naissance.
Non, oui, donc c'est les gènes.
Non, mais j'ai été élevé. Moi, mes grands-parents habitaient Garons. On allait voir des courses libres, surtout.
D'accord.
Et alors, à Nîmes, je n'ai vu que deux de corrida quand j'étais petit. Je n'étais pas fan. Mais là,
parce que j'ai vu que vous avez mis aussi Tardes des Soledades. Donc voilà, il est aficionado.
Mais je me découvre.
Mais c'est bien.
C'est pour me faire des amis à Nîmes, en fait. Ne le répétez pas. Hein. Donc...
Vous savez qu'on est filmé. Hein. Vous m'avez demandé qu'on soit filmé.
Ben, je ne veux pas dire que je sois aficionado. Mais alors, bon, pour en
mais
revenir...
Mais intéressé, tolérant, voilà. Vous voulez vous intéressé
alors,
à tout.
Mais quand le film... Mais non, Tardes des Soledades, on en parlera après. Mais celui-ci, qui est très, très beau aussi. En fait, c'est un Jérémy Battaglia. Alors, il est comme moi, parce que moi, j'ai habité Marignane. Il est de Marignane. Et il vit maintenant au Canada. Et lui, il est spécialisé dans des documentaires où il explore le corps, surtout le corps artistique, dans ses derniers retranchements, dans les derniers exploits. Alors, ça peut être des sportifs, des danseurs. Et là, il s'est attaché à filmer deux jeunes d'origine maghrébine. Il y en a un qui est marocain, je crois, et l'autre d'origine tunisienne. Et ça, je l'avais remarqué quand je vais voir des courses libres. C'est comme ça que j'avais commencé, d'ailleurs. Et je me suis aperçu que souvent, les raseteurs, par rapport à mon époque, qui ne date pas d'hier, c'est souvent des jeunes issus de l'immigration.
Oui.
Et alors, ils expliquent tous les deux dans le film qu'en fait, pour eux, c'est une façon, finalement, de se prouver leurs limites et surtout d'être appréciés, non pas par un public, mais... Et en ayant une position sociale, voilà.
D'accord.
Alors c'est un film, on ne va pas dire un film politique, mais c'est un film très sociologique, et les prises de vue, les deux personnages sont très bien, ils sont très charismatiques, et c'est un film qui finalement donne espoir en l'humanité, quoi, voilà.
Donc, Tardes des Soledades.
capté, ouais. Vraiment, c'est là.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous continuons donc ce miscellané, je remploie le mot, ça m'a bien plu, de Jean Max pour le premier semestre 2025. Et Tardes de Soledad, vous adorez.
Ah oui, 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 j'ai adoré. Je crois que j'en avais déjà parlé sur vos ondes, mais alors il fait partie de mes 11 films préférés du premier semestre. Alors déjà, j'étais très étonné parce que on peut pas dire que je sois fan de Albert Serra, hein. Surtout Pacifiction, et puis celui qui l'avait fait aussi sur le siècle des Lumières. Mais là, je n'étais pas encore devenu aficionado, donc j'y suis allé un petit peu par curiosité. Mm-hmm. J'ai été saisi, déjà par les images, images sont très belles, par le toréador, évidemment, qui est là, et qui est tout le temps dans le plan. Et puis surtout, ce qui m'a fasciné, c'est... cette rencontre entre la bête et l'animal. Bon, je sais que beaucoup de personnes ont écrit là-dessus, Hemingway, bon, enfin, je ne suis pas le premier, mais on vit de l'intérieur à la fois le drame du torero et le drame du taureau. Enfin,
bon, bah oui, il meurt
ou il ne meurt pas, parce qu'il y a des fois
où il est gracié.
Mais ça a quelque chose aussi à voir, tout comme le précédent, une jeunesse française, quelque chose
c'est
à
pour
voir
ça que
avec
je les
gladiateurs.
Ouais,
hein.
Je les ai mis côte à côte. Pour
ouais, il le dit d'ailleurs, un des deux dans une jeunesse française, il dit « Nous sommes des gladiateurs modernes ».
Modernes.
Voilà, et en fait, ils ne se combattent pas entre êtres humains jusqu'à se mettre à mort, mais enfin, ils sont confrontés à un animal qui ne fait pas de cadeaux.
Alors, il nous reste 5 films. Donc, vous enchaînez Jean-Max sur Ghostlight, d'Alec Thompson et Kelly O'Sullivan. Donc, un de vos 11 films préférés.
Voilà. Alors, celui-ci, j'en avais déjà parlé dans une émission précédente.
Donc, on va...
Mais on va dire quand même que c'est fait partie des films que j'ai beaucoup aimés. Et pour des raisons différentes, c'est pourquoi je ne fais pas de classement. Comment voulez-vous? On ne peut pas mettre en premier celui-ci. Bon,
puis donc, dans des genres différents, dans des styles différents.
Dans des genres complètement différents, parce que ça, c'est un film très inattendu. Un film américain qui a été réalisé par un couple et qui met en scène des couples. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Et donc, Ghostlight, ça veut dire, en américain ou en anglais, bien sûr, que c'est la lampe que l'on met pour... Un peu comme les églises allument une lampe pour montrer qu'elle est consacrée, là, pour montrer que le théâtre est ouvert et qu'il fonctionne. Et ils ont fait ça beaucoup pendant le Covid. Montrer que vous savez que le spectacle vivant, voilà, et a failli mourir à ce moment-là. Et donc là, Alex Thompson et Kelly O'Sullivan, les deux réalisateurs, sont partis d'un... C'est un monsieur qui entretient les voiries. Non, il n'est pas balayeur, mais il s'occupe de peindre les passages protégés et tout et tout. Et qui un jour rencontre, par hasard, il ne savait pas qu'elle était comédienne. Il y a un endroit où on répète et il répète... Roméo et Juliette, et ce qui se trouve, c'est ce monsieur qui est un peu âgé, qui a des problèmes parce qu'il a perdu un de ses enfants. Je crois que le film passe toujours au sémaphore. Et ils vont interpréter l'un l'autre, malgré leur âge un peu avancé, Roméo et Juliette. Voilà, et c'est très romantique.
Et on aime le romantisme. Alors, When the Light Breaks de Runar Renardson, là non plus, je l'ai point vu.
Alors oui, c'est pas étonnant parce que c'est pas un film qui a tenu l'affiche pendant des mois et des mois, mais c'est un très beau film. En fait, c'est un film... Alors, Runar Runarsson, il est du Nord, là-bas. Oui, c'est un Suédois et c'est un hommage au cinéma d'Ingmar Bergman, bien sûr, et parce que... alors, When the Light Breaks, ça veut dire quand la lumière tombe. Oui. Alors, le film est réalisé entre deux couchers de soleil. Un garçon et sa petite amie passent la soirée ensemble. Ils sont devant le coucher de soleil, ils se jurent leur amour éternel. Ils vont se coucher. Et le lendemain matin, on comprend que le jeune homme a dû partir très tôt. Et alors après, je ne vous raconte pas.
Ben non,
mais il va y
pas.
Avoir des tas de choses qui vont se passer. Et la tristesse et la douleur de la jeune fille va se dissiper au moment du deuxième coucher de soleil. Mmh. Alors, c'est, vous savez, c'est un peu le principe de « en un temps, un seul fait accompli ». En un temps, en un lieu. Et là, c'est un peu ça. C'est un petit peu la dramaturgie classique.
Mais quand je vous écoute, Jean-Marc, je me demande... Qu'est-ce qui vous fait aimer un film en premier ? Le scénario, la façon de filmer, la musique ?
Bah, c'est une très bonne question.
Mais c'est mystérieux.
Non, je pense que d'abord, c'est le coup de cœur. Si je ne m'ennuie pas dès le départ...
Voilà. Ça vous arrive de quitter, non ?
Non, jamais.
Jamais.
Bah,
par respect pour
même
le...
pour Titane, je ne suis pas parti, vous vous rendez compte ? Et même pour Parthénope, bah, je suis courageux quand même.
Bravo, hein. bravo.
Ouais, bon.
C'est ça la passion.
Non, là, When the Light Breaks, ça vous prend dès le départ.
D'accord. Alors, mon gâteau préféré de Maria Mokadam et Beshta Sanaa. J'avoue que j'ai hésité à aller le voir et j'avais... pas vu de très bonnes critiques.
Ah, mince.
C'est toujours le problème de savoir, est-ce qu'on lit les critiques avant d'aller
Mais
au
vous
cinéma?
Lisez qui? Vous lisez Télérama?
Un petit peu de tout.
C'est bizarre. Bon, moi, je ne lis aucune critique. Hein. Alors ah, là, ça, je vous le dis.
Vous arrivez
pas...
complètement vierge de toute jugement.
Alors là, non, mais puis moi, en plus, comme je suis critique, donc il y a les attachés de presse qui m'écrivent. Bon, on est très sollicités. Mais je me fie soit à ce qu'ils me conseillent, soit à mon flair.
Ah oui. À force de voir des films, c'est sûr.
Mais non, mais mon gâteau préféré, c'est vrai que c'est comme Vendieu, c'est ça ?
Oui.
L'attachée de presse, elle m'avait dit, c'est un film sur un gamin qui fait des comtés ou des fromages. J'ai dit, oh là là. Et puis, c'était merveilleux. Et là, pareil, mon gâteau préféré, mais c'est un film iranien déjà.
Oui, je connais bien l'histoire. Hein, mais
j'adore le cinéma iranien déjà.
Et j'ai donc, pas fait l'effort d'aller le voir.
Ah bon, ben, il faut le
faire.
Il
faut le voir, voilà. C'est
noté. Il faut le voir et le revoir.
Bon, même le revoir. Eh ben,
c'est chef-d'œuvre.
Prima la Vita de Comencini.
Prima la Vita,
vos,
alors ça c'est
dans
du
amour là.
Voilà, ça c'est du lourd parce que c'est Francesca Comencini, la propre fille de Comencini, le grand réalisateur italien, qui raconte son enfance avec son papa. Et c'est au moment du tournage de Pinocchio. Alors il y a des scènes qu'elle a reconstituées avec un acteur qui joue le rôle de son père. Et malheureusement, donc c'est alors. Est-ce qu'il y a de l'incommunicabilité entre eux ? Il y a la mère absente. On ne nous dit rien. On ne sait pas si la maman est morte, si elle est partie. Et il y a cet amour du père pour sa fille et l'admiration de sa fille pour son père jusqu'au moment où elle, après avoir fait de mauvaises rencontres, elle sombre dans la drogue. Et c'est le travail de son père
de l'en qui,
pour l'en sortir. Et il est allé jusqu'à l'amener à Paris, à l'empêcher de sortir. Enfin, il a beaucoup œuvré pour ça. Et ce film-là, elle le fait en fait, c'est le remerciement qu'elle adresse à son père, quoi.
Alors là,
parce qu'elle est devenue réalisatrice, évidemment.
Vous êtes dans votre élément, parce que là, vous revenez d'Italie. Hein,
voilà, je reviens
l'Italie,
d'Italie.
L'Italie, c'est votre deuxième patrie, c'est votre deuxième maison.
Mais oui, en fait, là, j'en ai profité pour faire du tourisme. Mais en fait, j'allais à Rimini pour le colloque qui a eu lieu sur Fellini et la littérature.
Et vous nous en parlerez. Nous en sommes qu'à l'émission numéro 4, donc vous aurez le temps de nous en parler, puisque vous allez être notre invité régulier une fois par mois. Avant de parler du dernier film, Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, de Bogdan Mureșanu, dont nous écouterons, pour lequel nous écouterons le boléro de Ravel en générique de fin, je voudrais parler, puisque vous êtes aussi un écrivain, du livre que vous venez de publier, La traversée de Paris, de Claude Autant-Lara. Moi, je me souviens, quand j'ai vu ce film la première fois, j'étais assez jeune et j'avais été époustouflée par le numéro de Gabin et de Bourvil.
Ah bah
c'est un face-à-face.
Et de Funès. Et de Funès dans le rôle.
Je ne me souviens pas trop, c'est rigolo.
Bah, il n'a pas un grand rôle, c'était un de ses premiers
c'est un
films.
Pourri, hein. C'est vraiment le.
Bah, de Funès. Bah, oui, ils sont tous pourris un peu.
Oui, et mais sont, de Funès, sont... c'est plus.
Oui, bah, de Funès, c'est celui qui fait du marché noir. C'est le chef du marché noir local.
Et donc là, vous avez.
Jean-Bier.
Eh oui. Donc, vous avez publié ce livre, vous vous êtes régalé à faire cette analyse approfondie du film.
Alors, c'est la collection, oui, c'est ce principe de la collection pour laquelle j'en ai déjà écrit d'autres. En fait, on analyse, bon, peut-être pas minute par minute, mais séquence par séquence,
voilà.
Et avec les critiques de l'époque et même les critiques actuelles, parce qu'il y en a encore.
C'est aux éditions Grémez.
Voilà. Et moi, ce qui m'a donné envie, c'est Truffaut qui détestait Claude Autant-Lara, qui a quand même dit que l'exception, c'était La Traversée de Paris. Et effectivement, c'est un très, très grand film.
Donc voilà, là on parle des 11 films que vous avez aimés ce premier semestre, mais vous en avez tellement aimé, vous écrivez sur ce livre, et donc je recommande La Traversée de Paris aux émissions,
merci.
Aux éditions
Grémez.
Grémez, voilà. Alors, nous finissons avec votre 11e film pour le premier semestre 2025. Je vois l'heure qui tourne, nous avons le chronomètre, on est dans les temps. Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, c'est très bien.
Alors, vous l'avez vu.
Oui.
Bon, alors, c'est très bien. Bah, c'est un peu long,
oui,
lent.
Oui, mais j'ai bien aimé.
C'est ce qu'on appelle un film choral. Alors, il faut suivre dès le départ.
Ouais.
Et c'est très beau. C'est...
Ouais. Je trouve que c'est bien quand on dit justement c'est très beau. On a l'impression que on n'a pas envie de raconter, on a envie de dire.
Non, parce
on a,
que
voilà,
c'est
on
pas
a
un
aimé.
Film racontable.
Ouais. On s'est
c'est
mis
la
dedans.
Chute, c'est la chute de Ceausescu.
Oui. Oui, c'est vrai qu'il faut
voilà,
quand même parler.
Voilà, à la fin voilà. de l'année 1989. Mmh. Et donc, comme c'est fait par... C'est impressionniste, ces petites touches. Et on se demande pourquoi on nous parle de tel et tel personnage, comme ça. Et
il faut suivre.
Petit, il faut suivre. Il y a le petit garçon qui a dénoncé son papa au Politburo.
Oui, il y a beaucoup. C'est à la fois historique, mais c'est en même temps sociologique, c'est psychologique, il y a beaucoup de choses. Donc merci Jean-Max de nous avoir parlé de ces 11 films, de ce livre. On se retrouve là, c'est l'émission de juillet, on se retrouve pour le mois d'août, fidèle au poste, peut-être avant dans une salle sous les étoiles, là, qui a lieu début juillet.
Mais oui, j'aimerais beaucoup.
Oui, vous viendriez à notre plateau. Et encore merci, et on finit avec le Boléro de Ravel.
Merci beaucoup.